nouvelle escale dans le tour du monde de Thierry Georges. Suivez le guide, c'est tout de suite sur RCF.
Ladies and gentlemen, welcome to Radio Roma.
Radio Roma.
Yes, welcome to Rome. Please remain seated until the fasten seatbelt signs have been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments.
Benvenuti a Roma. Bienvenue à Rome. Benvenuti in Italia. Bienvenue en Italie.
Bonjour Roma, bonjour Rome. Suivez le guide, vous emmène dans la ville éternelle. Nous sommes au centre-ouest de la péninsule italienne. La thématique principale de cette série romaine, mais aussi française, ce sont les cinq églises romaines administrées par la Fondation, les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Saint-Claude et Saint-André des Francs-Comtois de Bourgogne, Saint-Yves des Bretons, Saint-Louis des Français, la Trinité des Monts et Saint-Nicolas des Lorrains. Le cadeau bonus nous permettra pour clore la série d'entrer dans la basilique Saint-Jean de Latran.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Denis Chamin est chancelier de l'association Les Amis de Saint-Nicolas des Lorrains à Rome. C'est avec Denis que nous visitons les six églises en prenant le temps de vous faire découvrir d'autres aspects de la capitale et de la vie romaine. Ce nouvel épisode de Vacances romaines vous invite à vous asseoir à la terrasse du restaurant La Carbonara, Campo dei Fiori, le champ des fleurs. Un enregistrement réalisé en octobre 2024 en lien avec le jubilé 2025. Ouvert officiellement le 24 décembre 2024 à 19h, le pape François a déclaré 2025 année jubilaire avec pour thème « Pèlerin d'espérance ». Cette tradition vieille de 700 ans revient tous les 25 ans. 35 millions de visiteurs sont attendus à Rome, mais ce mois d'octobre 2024, il y avait déjà foule partout dans le centre historique, beaucoup moins dans l'église des Francs-Comtois de Bourgogne, puisqu'elle était encore en restauration. Nous sommes accueillis par l'architecte Agnès Chautzko. Nous poursuivons la découverte des églises françaises de Rome et nous voici Denis, Piazza San Silvestro, qui nous permet, avant d'entrer dans Saint-André et Saint-Claude, des Francs-Comtois de Bourgogne, avant d'y entrer et de retrouver Agnès Chautzko, nous pouvons, Denis, observer, avoir une vision globale des cinq églises et c'est marrant, elles sont à l'échelle.
Oui, alors les pieux établissements ont eu l'heureuse idée
d'utiliser
un grand panneau de chantier pour montrer finalement la variété, la richesse de nos églises françaises à Rome, en représentant donc les façades sur le panneau.
Commençons par la plus petite.
Elles sont effectivement réalisées par taille.
C'est un peu comme les Dalton. Hein, c'est un peu comme
alors,
ça.
On vient de quitter Saint-Yves des Bretons.
Et c'est la plus petite.
Avec la date de fondation 1890, sachant que c'est une église évidemment reconstruite sur des églises antérieures.
Numéro 2.
1632. Saint-Nicolas des Lorrains, avec cette magnifique façade. C'est quand même la plus belle, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je pense, alors, bien évidemment. Ensuite, plus grande.
C'est celle qu'on va visiter maintenant avec Agnès Chautzko, 1731.
Ensuite, on passe vraiment au double XL. Hein.
Alors là, c'est le triple XL. C'est la Trinité des Monts, 1594. Et Saint-Louis des Français, 1589. Oui,
mais qui est classé 4, hein.
François 1er.
Oui. Quatrième Saint-Louis des Français, cinquième, la plus grande.
La Trinité des Monts.
Mais c'est la hauteur, c'est pas la largeur parce qu'elle est plus large.
En largeur, c'est Saint-Louis.
En largeur, c'est Saint-Louis, voilà. Mais c'est pas la plus grande.
Et la Trinité des Monts, 1594, qui est au-dessus de la place d'Espagne, n'est-ce pas, avec ses magnifiques escaliers, dits d'Espagne, mais qui sont en réalité français. Nos cinq églises françaises, elles sont situées là sur un plan de Rome, donc tu peux voir qu'elles sont relativement groupées. On peut aller de l'une à l'autre assez facilement à pied, sans problème.
Des églises, on le disait dans l'enregistrement précédent, des pays, etc., il y en a plein. Autant que la France ? Autant que la France, non. Au hit parade romain, la France arrive première, avec cinq églises, même six, en ajoutant Sainte-Claire, le siège du séminaire français de Rome. Ex aequo, 5 également pour la Grèce, 4 l'Espagne et la Grande-Bretagne. 3, l'Allemagne et l'Ukraine.
Ceci dit, la France est extrêmement présente sur Rome, indépendamment des églises, sur quand même la Villa Médicis, tu as le palais Farnèse. Bien que nous soyons locataires, nous ne sommes pas propriétaires du palais.
Donc le palais Farnèse, c'est l'ambassade.
C'est l'ambassade de France. Auprès du Quirinal, auprès du gouvernement de la République italienne.
Puisqu'il y a aussi l'ambassade de France près le Saint-Siège.
Et puis, il y a un troisième ambassadeur à Rome, français.
Ah, c'est toi ?
Et oui, le FAO, qui est une organisation de l'ONU pour l'agriculture. Ouais. Et on a un ambassadeur de France attaché au FAO. Donc, il y a 3 ambassadeurs français à Rome.
Nous allons, Denis, de surprise en surprise. Là, nous venons d'entrer dans une autre église, effectivement. Je n'imaginais pas découvrir ce que nous avons sous les yeux avant d'avoir franchi la porte. Hein.
Ben, il paraît que c'était une église. Et c'est un grand chantier. Non, c'est bien l'église des Bourguignons. Alors, plus exactement...
Saint-André-Saint-Claude.
Des Franc-Comtois de Bourgogne, parce qu'il y a toute une histoire entre Franc-Comtois et Bourguignon. Aujourd'hui, c'est la même région, Bourgogne-Franche-Comté. Nos amis, ils se sont également organisés en association d'amis. Les Bourguignons ont un œil sur leur église, comme les Lorrains et les Bretons, et moi, ça me fait bien plaisir.
Donc c'est toi qui est à l'origine de l'organisation d'une association des amis.
C'est-à-dire que les élus bourguignons ont fortement suscité l'idée de création et moi j'ai aidé effectivement au montage, à la constitution de cette association ainsi que celle des Bretons.
Mais en revanche, qui a impulsé donc la construction de cette église ici à Rome? C'était, on a dit, le duc de Lorraine, Anne de Bretagne, ce serait un duc de Bourgogne.
Un duc de Bourgogne, sans doute.
Et nous retrouvons dans l'église.
On retrouve évidemment Agnès Schotzko, qui est architecte diplômée par l'État, DPLG, n'est-ce pas ? Conductrice d'opération, je crois que c'est ça.
DPLG, c'est diplômée par...
Par le gouvernement.
Par le gouvernement.
Elle est conductrice d'opération. On connaît Agnès depuis très très longtemps parce qu'elle s'est occupée avec beaucoup de compétences de Saint-Nicolas. Et elle exerce au sein d'un service qui s'appelle le STBI, le service des travaux dans des bâtiments en Italie, qui est placé sous l'autorité de l'ambassade de France auprès du gouvernement italien, non pas auprès du Saint-Siège. Ouais. Donc vous travaillez sur des édifices cultuels, mais aussi sur des édifices, on va dire, civils.
C'est ça. Bonjour Agnès. Non, en fait, on va parler français parce que vous êtes française.
Hein. Absolument. Oui, je suis française. Bonjour.
Et vous venez d'où, alors, en France?
Alors, je suis originaire du Pays Basque.
Ah, voilà. Oui.
Petit village à côté de Saint-Jean-de-Luz qui s'appelle Asquin.
Vous avez laissé l'Atlantique pour la Méditerranée, plutôt?
J'ai fait mes études d'architecture à l'École nationale d'architecture de Versailles. Ben, c'est vrai que ce sont des études qui durent assez longtemps. Donc, les étudiants en architecture sont souvent curieux et ont envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Je suis partie un an en tant qu'Erasmus.
Au départ, c'est voilà, ces fameux échanges, on voit ces étudiants Erasmus, ces projets Erasmus.
Absolument. Ouais. Donc j'ai étudié une année ici.
Qui se transforme en une vie par la suite.
Exactement, au niveau professionnel comme au niveau personnel.
Oui, c'est souvent lié.
Rien n'était prémédité, mais ça s'est fait comme ça.
Vous avez rencontré un autre étudiant d'échange ou un local ou...
J'ai rencontré un local. Rien n'était prémédité. Tout s'est fait de façon absolument naturelle et sans même que je m'en rende compte. Je me suis retrouvée, après donc quelques années passées ici à Rome pour terminer mes études, toujours avec des bourses d'études. Donc j'ai passé mon diplôme à l'école d'architecture de Versailles. Et puis ensuite, j'ai trouvé du travail assez rapidement ici à Rome dans une agence d'architecture pour faire un peu mes classes, hein, comme on dit. Et puis...
Et vous étiez plutôt attirée par le patrimoine?
Alors, on a du mal à faire autrement quand on est à Rome.
Oui, il est partout.
Quand on étudie architecture aussi, c'est difficile. En fait, on est vraiment tellement envahi par le patrimoine et on est entouré de ce patrimoine. Donc c'est vrai que de fil en aiguille, tout s'est fait comme ça. Dans l'agence d'architecture où j'ai travaillé, c'est vrai que j'ai été dirigée assez rapidement vers le patrimoine, des projets de restauration monumentale. Et puis ensuite, j'ai trouvé donc un poste à l'ambassade de France en Italie, donc au sein du STBI, qui est le service des travaux et français en Italie, qui est un service qui a en fait la gestion d'un parc immobilier assez vaste.
votre terrain de jeu, c'est toute l'Italie ?
Alors non, en fait, nous sommes assez nombreux dans ce service et nous sommes divisés par secteur. Et donc, mon secteur, c'est le secteur des églises, Rome.
Ah, donc pour vous, exclusivement les églises. Il y a du boulot tout le temps en se concentrant uniquement, entre guillemets, hein, sur les églises françaises de Rome.
Oui, exclusivement sur les 5 églises françaises de Rome.
Quand vous en avez terminé une, vous passez à une autre. Et quand vous avez terminé les 5, il faut revenir à la première.
Alors, ce n'est pas tellement dans ce sens-là. Non. En fait, on travaille sur des programmations pluriannuelles. On essaye donc de surveiller le monument dans son ensemble. Dans un monde idéal, c'est vrai qu'on fait ce qu'on appelle un schéma directeur sur le monument. C'est un petit peu le carnet de santé et la carte d'identité du monument. Donc on sait où se trouvent les urgences sanitaires. On écoute un petit peu tout le monde. Et l'architecte en chef des monuments historiques, chargé donc de la maîtrise d'œuvre sur ces monuments, rédige ce schéma directeur qui nous donne un petit peu une ligne de conduite à mener pendant 10, 15, 20, 30 ans.
Nous enregistrons en 2024. Vous pouvez programmer des travaux en 2040.
Disons qu'on a un programme jusqu'en 2035.
35, oui, c'est pas mal. Ce qui est pas mal. Et alors, parmi les vos cinq patients, finalement, quel patient demande davantage de soins ? Bon, il n'y en a aucun n'est en soins palliatifs. Hein.
Non, aucun n'est en soins palliatifs. C'est vrai qu'alors, je vais commencer par les plus petites églises, qui ne sont certainement pas les moins intéressantes, mais en taille, les deux plus petites, qui sont Saint-Yves-des-Bretons et Saint-Nicolas-des-Lorrains, évidemment, il y a moins de surface à traiter, donc c'est plus facile d'organiser des travaux et de finir des travaux. Ce sont celles qui sont dans un état de conservation meilleur. On revient ici à Saint-Claude-des-Bourguignons, Saint-Claude-des-Saint-André, des Francs-Comtois de Bourgogne. C'est l'église de taille moyenne par rapport aux quatre autres. Là, nous avons eu la chance de pouvoir entreprendre une grande campagne de restauration.
Là, c'est vraiment une restauration de fond.
C'est vraiment révision des toitures et tous les intérieurs. Donc,
c'est le gros check-up.
C'est le gros check-up. Et c'est vrai que, passé cette grande campagne de restauration, il restera les façades à traiter. Ça, c'est faisable.
Pour être tout à fait honnête, Agnès, cette église a longtemps été considérée comme italienne. C'est vrai que Trinité des Monts, Saint-Louis, Saint-Nicolas et Saint-Étienne étaient bien répertoriés comme église française. Et puis, c'est vrai, tiens, on avait aussi les Bourguignons.
On l'avait un peu oublié. Alors.
Pourquoi ? Ben parce que
fréquenté par
et célébré en langue italienne. Ça faisait vraiment église italienne. On avait oublié qu'elle était vraiment française.
Absolument. Hein, c'est une église très fréquentée parce qu'il y a donc l'adoration du Saint-Sacrement. Donc c'est une église qui est ouverte au culte toute la journée. Il y a un arrêt de bus devant qui fait que vraiment je vois souvent des personnes qui descendent et qui rentrent directement dans l'église. C'est vrai que c'est une église qui est très fréquentée, notamment par les Italiens.
Comme quoi chaque l'église a vraiment une personnalité. Ça, ouais. C'est vraiment étonnant.
Et puis les deux plus grandes églises, donc Saint-Louis des Français, qui est quand même l'église nationale.
C'est la plus connue, en raison de la présence des tableaux de Caravage.
Bien sûr, mais nous travaillons aussi sur ce côté communication sur les 5 églises, parce qu'il faut quand même que les 5 églises françaises de Rome soient connues de la même façon. Donc nous travaillons aussi là-dessus.
Il y a une locomotive quand même.
Ouais. Il y a une locomotive.
Et il y a des beaux wagons.
Oui, et il faut reconnaître que depuis une vingtaine d'années, ce travail a apporté ses fruits, parce qu'aujourd'hui, ces 5 églises fonctionnent vraiment ensemble. Toutes les délégations qui viennent des différentes régions de France savent qu'elles peuvent faire ce circuit.
Quant à l'état de santé, le bilan santé de Saint-Louis des Français et la Trinité des Monts.
Alors Saint-Louis des Français, d'importants travaux ont été faits sur les façades et sur les toitures, 2007, 2008, 2012, 2014, enfin bon, ça a été d'importantes tranches de travaux. Et maintenant, les intérieurs, donc chapelle par chapelle, d'abord la chapelle Saint-Sébastien l'année dernière, cette année la chapelle du Crucifix, également cette année, justement, demande de l'ambassadrice de France auprès du Saint-Siège pour le jubilé, pour éviter qu'il y ait des travaux pendant l'année sainte. Nous avons anticipé la chapelle Sainte-Jeanne de Valois qui va donc être terminée dans un mois et demi pour le jubilé. Et puis, surtout, la mise aux normes électriques et mise aux normes sécurité incendie de l'église Saint-Louis des Français.
Ce sont des mesures nationales. Vous savez que il y a actuellement un travail très important sur nos cathédrales.
Voilà, Notre-Dame a un peu
A affolé les populations.
A affolé toutes les...
Et nous avons eu donc tout de suite après l'incendie de Notre-Dame de Paris, la visite du lieutenant-colonel Burger, missionné par le ministère de la Culture et qui est venu donc voir un petit peu visiter le monument.
De fait, il y a eu des incendies d'églises à Rome ces dernières décennies, c'est arrivé ou...
Je n'ai pas le...
Non, j'en ai pas souvenir. Ces églises qui sont au nombre d'eux, je vous posais la question juste avant qu'on enregistre.
Alors, on parle de 600 églises à Rome.
600 églises.
Oui, oui.
Sans doute 600 ouvertes, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup plus, transformées. Il y a des oratoires, des chapelles, et puis beaucoup d'églises sont fermées. Hein. Tu vas dans certaines rues, il y a des petites églises fermées. Et je pense que 600 me semble être une approche assez réaliste. 600 églises ouvertes. Et Rome, ce n'est pas une ville tentaculaire, hein, c'est une petite ville. C'est un patrimoine énorme, énorme, énorme.
Et puis, évidemment, un nouvel éclairage, donc avec donc des réseaux somptueux. Électriques.
Oui, somptueux.
Ça va être somptueux, j'espère. Ouais.
Ensuite, la Trinité.
Et alors, la Trinité des Monts, qui est évidemment la plus vaste.
Le bijou national.
C'est bien, comme ce sera la dernière pour nous.
Et la plus vaste, qui occupe effectivement la superficie au sol, parce que c'est bien évidemment l'église de la Trinité des Monts, avec le couvent de la Trinité des Monts, la maison d'accueil. Il y a toute une multitude de décors.
Une question pour nos auditeurs. Les escaliers qu'on dit d'Espagne, les escaliers ont été cédés à la ville de Rome,
oui.
si ma mémoire est bonne, et sont gérés par la ville de Rome.
Actuellement,
mais
tout à fait.
On n'explique pas aux touristes qu'en réalité, l'église, elle commence place d'Espagne.
L'escalier d'Espagne est un escalier français. Monsieur,
il y a des fleurs de lys partout.
On est en terre française dès la première marche.
Et vous occupez-vous de l'église?
Je m'occupe de l'église, mais je suggère de demander à l'administrateur des établissements qui saura certainement répondre à cette question. Ouais.
Vous n'avez jamais restauré des marches d'escalier?
Jamais.
C'est un ensemble monumental qui part de la place d'Espagne et qui va jusqu'en haut.
Donc elle va bien
Alors la Trinité des Monts va bien. De nombreuses campagnes de restauration ont été entreprises. Les toitures de l'église, les toitures du cloître, les façades de l'église, les façades du cloître, les galeries du cloître également avec de magnifiques fresques. C'est vrai qu'à l'intérieur de l'église, il y a maintenant des travaux à entreprendre. Malheureusement, avant le jubilé, ce n'est plus possible. Pendant le jubilé, ce ne sera pas possible. Donc là, nous travaillons pour 2026 avec la restauration des chapelles communicantes.
Bon, pour vous, ce n'est pas un an de vacances, pour autant en 2025, pendant l'année du jubilé.
Absolument pas, puisque vous préparez la suite sur la programmation des travaux, les projets, les appels d'offres.
Il n'y aura jamais de chômage technique. Pour un moment, vous dites ça y est, il n'y a plus rien à faire dans aucune des cinq églises.
Non, parce que c'est vrai que nous essayons de travailler, de très bien travailler. J'espère que c'est le cas. C'est vrai que nous essayons, plutôt que de faire des restaurations tous les 30 ans, il faudrait qu'on rentre maintenant dans un rythme d'entretien des façades. On l'a déjà fait avec Saint-Yves-des-Bretons, on l'a fait aussi avec le Saint-Louis des Français, donc c'est vrai que ça demande aussi un projet, un appel d'offres, donc c'est long quand même à organiser, mais ce sont des opérations qui peuvent se faire par exemple à la nacelle, c'est-à-dire qu'on va contrôler la façade, on va vérifier.
Entretenir de façon plus permanente, ce sont in fine des économies, plutôt que de faire tous les 30 ou 40 ans des travaux lourds.
C'est démontré, oui.
Les églises sont salies facilement à Rome, il y a une pollution, est-ce que l'évolution, je ne sais pas, des véhicules vers des véhicules électriques, est-ce que ça va améliorer les choses et faire que les façades seront moins sales et moins rapidement?
Alors nous l'espérons, c'est vrai que déjà par rapport à il y a peut-être 30 ans, le centre historique était ouvert à toutes les voitures, tous les véhicules. Donc à l'époque, c'est vrai que c'était
beaucoup,
vraiment...
beaucoup amélioré.
Ça s'est beaucoup amélioré et ça va s'améliorer encore parce que justement les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux et nous espérons que ça s'améliore.
Moi j'ai vu Rome, tu sais, avant le jubilé de l'an 2000, les rues étaient noir, c'était noir, noir, noir. Les façades des églises étaient noires. Tu peux pas savoir ce qui s'est passé là. En 20, 25 ans, c'est énorme le travail qui a été fait. Alors tant par nous, Français, au sens large, que par les Italiens eux-mêmes. Hein. Le centre de Rome a été radicalement modifié. Hein.
Tu sei la mia vita, altrui non. strada, la mia verità, nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai, non avrò paura, sai, se tu sei qui.
Agnès, un moment, c'est la pause déjeuner pour faire connaissance avec Annie Luzietti au restaurant La Carbonara Campo dei Fiori.
Roma, Roma. La capitale ascolta la sua radio. La sua radio. Radio Roma, Caput Music.
Seguite la guida a Roma. Suive lo guide a Roma.
Vengino, signori, vengino!
Je vais d'abord vous demander, Anne, de bien prononcer la... Alors, je vais le dire à la française, la carbonara. Je suis persuadé que si je demande dans les rues de Rome où se trouve la carbonara, je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors, je vais essayer une tentative. La carbonara
Oui, c'est la carbonara Campo dei Fiori.
C'est ça, mais quant à la bonne prononciation, si on le dit à la française, carbonara...
La carbonara.
La carbonara, sachant que vous êtes française, hein, Anne. Nous sommes ici Campo di Fiori, c'est un champ de fleurs, mais il y a des fleurs. Donc il faut toujours qu'il y ait des fleurs sur ce Campo di Fiori. Comment présenter cette place Campo di Fiori?
C'est la seule place de Rome où il n'y a pas d'église, parce que c'était la place des châtiments. Et c'est devenu la place des marchés. Donc il y a toujours eu un marché de fruits, de légumes. Et donc il y a la fameuse statue de Giordano Bruno, qui était un hérétique, qui a été brûlée. Et qui s'est, soi-disant, à la dernière minute, retourné vers le Vatican avec sa Bible dans les mains.
Donc il est en face de moi, effectivement, derrière vous. Il ne nous regarde pas, il a les yeux un petit peu baissés. Une fontaine juste à côté. Je ne sais pas si toutes les places sont pleines de vie à Rome, mais celle-ci l'est, c'est certain.
Absolument, c'est le cœur de Rome, pratiquement. C'est la place de la tradition, la place de la vie de Rome.
Et la carbonara n'a pas toujours fait partie de la vie ici, à Campo dei Fiori, mais quand même, depuis un temps certain.
Oui, depuis un certain temps, car la carbonara est née avant la Première Guerre mondiale. C'était une famille de gens qui faisaient du charbon, qui vendaient leur charbon vers Piazza della Pace, et donc qui est à deux pas d'ici, à côté de Piazza Navona. Eux vendaient leur charbon et leurs épouses cuisinaient pour eux et pour les gens qui étaient autour. Donc ils leur faisaient cuire les pâtes, eux ils amenaient le parmesan, le pecorino, donc le fromage de brebis, des abruzzes, et elles donnaient à manger à tout le monde un petit peu dans le quartier.
C'était vraiment une cuisine familiale, une cuisine à la bonne franquette?
Ben oui, parce qu'après, pendant la Première Guerre mondiale, les maris sont morts. Et donc, c'est actuellement, ça serait l'arrière-grand-mère des actuels propriétaires. Elles ont gardé le restaurant, enfin, c'était un petit endroit, un petit truc pour donner à manger. Ils l'ont gardé, ils l'ont déplacé du côté de Piazza Campo dei Fiori et ils l'ont appelé La Carbonara. Au féminin. Il y a la recette de la carbonara, mais le restaurant s'appelle La Carbonara parce que c'était des femmes qui donnaient à manger aux charbonniers que l'on appelle carbonaio.
Ah voilà, donc c'était effectivement le lien avec les charbonniers. Le nom de la recette, ça?
Non, pas tout à fait, mais la recette, c'est une recette éternelle et qui a toujours existé parce que c'est une recette très pauvre. Les gens qui n'avaient pas grand-chose à manger avaient des œufs frais, avaient des pâtes et du guanciale, et donc la joue de porc qui était repassé à la poêle, voilà, et du poivre, c'est tout.
Les cartes des restaurants gastronomiques et étoilés sont pleines de recettes qui étaient des plats simples et des plats du pauvre, finalement, qui ont été embellis au fil des chefs.
Hein. Exactement. Mais ici, on est resté très, très traditionnel.
Venite tutti a casa mia na carbonara, non se ne chiama nessuno, c'è sta volontà. Se sa che a panza piena si ragiona meglio, te senti un po' più sveglio se c'è un piatto da magna. Se magna, 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 se magna. Oh, e da bevi!
En France, on ne mange pas des carbonara, mais en France, on mange des carbonara. Oui. Bon, ce n'est pas tout à fait les carbonara qu'on mange à Rome, hein, qu'on déguste à Rome, enfin qu'on déguste en Italie.
Et non, parce que généralement, en France, on rajoute la crème fraîche. Et en fait, il n'y a jamais de crème fraîche. Il n'y a que des œufs, du guanciale et du poivre et du parmesan et du fromage de brebis.
Et pas des lardons, c'est le guanciale.
En fait, c'est la partie de la joue du porc et non pas le lardon classique de l'autre partie du porc, quoi. Voilà.
Mais il y a quand même un tour de main. Hein. Je ne sais pas si Denis, si tu cuisines des carbonara.
Alors, depuis que je suis en retraite, effectivement, je commence à me lancer dans la cuisine, au grand étonnement de mon épouse. Et je fais beaucoup de pâtes, évidemment. Mais ça, c'est notre inclinaison pour l'Italie. Hein. C'est une passion.
Et donc, si tu cuisines des carbonara, tu les cuisines sans crème.
Oui, oui. Mais en revanche, je mets du lard. Ouais, j'ai compris qu'il ne fallait pas.
Petite faute.
On peut très bien mettre du lard à l'étranger. Il n'y a pas de souci. L'important, c'est de ne pas mettre de crème fraîche.
Oui, alors, cela dit, ce n'est pas si facile. Parce qu'avec la crème fraîche, c'est très facile de faire des carbonara avec de la crème fraîche. En revanche, j'ai fait plusieurs tentatives infructueuses avant de enfin comprendre qu'il fallait ajouter de l'eau de cuisson des pâtes dans la préparation. Hein.
Exactement. Le petit secret, c'est l'eau de la cuisson des pâtes qui a son gluten, qui en faisant finir la cuisson des pâtes dans la poêle, crée une crème et qui après, avec le fromage et les œufs, ça devient crémeux.
Alors, je pense qu'il ne faut pas hésiter quant au nombre d'œufs. Enfin, il y a des proportions. Hein. Les œufs, le fromage. Il ne faut pas chipoter avec les œufs, il ne faut pas chipoter avec le fromage. Hein.
Exactement, il ne faut pas du tout chipoter. Et surtout pour la cuisine romaine. La cuisine romaine est une cuisine très spontanée. Donc, l'œuf, il y a quand même la règle que c'est un œuf par personne. Et beaucoup de guanciale. Et il ne faut pas chipoter sur le fromage, sur le poivre, sur ce que l'on aime.
Et le guanciale, il doit être assez croustillant. Hein.
Le guanciale est croustillant, il est cuit à part, sans rien, mais il fait lui-même son gras, le gras est enlevé, et il reste seulement le guanciale bien croquant.
L'autre aspect, c'est la cuisson des pâtes, et le temps de cuisson des pâtes. Alors selon les pays, et moi j'ai découvert d'autres pays quand on va vers le sud et en Afrique du Sud, où les pâtes al dente, ça n'existe pas. Il faut bien reconnaître que dans certains pays, ils ne sont pas du tout habitués à manger des pâtes al dente. Mais le al dente italien n'est pas le al dente français non plus.
Plus ou moins.
Plus ou moins, mais quand même moins. Je suis persuadé que le temps de cuisson est légèrement inférieur en Italie qu'en France.
Oui, alors particulièrement à Rome, le temps de cuisson est inférieur et est vraiment un al dente. Si vous allez dans le nord de l'Italie, c'est un petit peu plus cuit par rapport à ici. Plus vous descendez, plus c'est un vrai al dente.
Plus on descend. Par exemple, pour donner une indication, quand on regarde le temps de cuisson, c'est vraiment une indication sur le paquet de pâtes. À Rome, alors parfois certains ajoutent, mais à Rome, on réduit le temps de cuisson qui est sur le paquet.
On réduit à presque une minute ou deux minutes, mais on goûte toujours.
Oui, c'est ça. Ça ne sert à rien de mettre le minuteur, il faut goûter régulièrement la cuisson des pâtes.
Exactement, on goûte et c'est la meilleure des choses pour cuire les pâtes.
Oui. C'est un indice de la civilisation, la cuisson des pâtes. Et je pense que les Italiens sont encore très au-dessus des Français.
Ah oui, c'est un degré de civilisation. Et toi, Denis, tu as goûté des pâtes à sa donnée. En fait, le problème, c'est qu'on a envie de tout goûter. Mais on ne peut pas, on ne peut pas. Donc toi, tu as goûté des pâtes avec des cèpes.
C'était un délice absolu. Enfin bon. Et elles étaient al dente à la romaine. Voilà, c'est... Non, c'est... Ici, on est au top, quoi. Carbonara, on est au top.
Me sento un po' appacchiato perché Roma è gnara. Le usanze de noantri se ne stanno a na. Da naura io so romano e c'ho un orgoglio. La carbonara voglio a costo d'amore ammazza.
Alors, si on continue à évoquer, puis après, on parlera un peu de l'environnement, on est tout près de l'ambassade de France, etc. Puis Denis a d'autres questions encore. Mais si on continue à parler de non pas de cuisine italienne en général, mais de cuisine romaine, il y a toute une partie, j'ai la carte sous les yeux, donc avec les plats romains. On est à Rome, c'est vrai qu'il faut cuisiner des plats romains.
Exactement, c'est le choix du restaurant, mais c'est aussi ce qui nous rend célèbres. Ouais. D'avoir toujours cuisiné des plats, nous avons retrouvé même un cahier de recettes des années 1920 où on avait exactement les recettes qu'on fait encore aujourd'hui.
Par exemple, je ne vois pas de risotto à la milanaise. C'est normal, on est à Rome. Alors, quels sont les plats typiquement vraiment de la cuisine romaine?
Alors, il y a beaucoup de fritures dans la cuisine romaine. Et il y a la friture des artichauts, des fameux artichauts à la juive, qui ont été faits dans le quartier juif, parce que ce sont des artichauts qui sont frits deux fois dans l'huile bouillante, refroidis et refrits, et qui fait comme des artichauts, des chips d'artichauts, de feuilles d'artichauts, et le cœur reste moelleux.
Alors, on les a goûtés. C'est une tuerie, hein?
Un quartier qu'on n'a pas encore fait dans nos pérégrinations, c'est le ghetto. Hein. Ah oui. Oui. On l'a fait en décembre avec les amis de Saint-Nicolas.
La cuisine romaine est très inspirée par la cuisine juive du ghetto. Oui.
Alors les artichauts, précisons, ce n'est pas les gros artichauts.
C'est des artichauts qu'on appelle les artichauts romaneschi, donc romains, qui sont assez ronds, assez gros, et surtout il n'y a pas beaucoup de foin à l'intérieur.
Là, c'est pas si facile.
C'est très difficile parce qu'il faut une température vraiment spéciale de l'huile. Ouais. Ce qui est plus facile à faire, c'est l'artichaut à la romaine. L'artichaut à la romaine, donc, est cuit à l'étouffée avec des arômes, de l'ail, du persil, du vin. C'est beaucoup plus facile. Mais on ne peut le faire que un mois et demi, c'est tout. Parce que les artichauts ne sont pas bons après.
Moi, j'ai encore besoin d'une formation dans la préparation des artichauts. Et puis sinon, si on continue à parcourir les plats?
Alors, sinon, nous continuons à parcourir les plats avec les pâtes. Donc, vous avez la cacio e pepe. La cacio e pepe, ce sont des spaghettis toujours cuits al dente et qui sont toujours finis avec l'eau de la cuisson, avec beaucoup de parmesan, beaucoup de fromage de brebis et beaucoup de poivre. Très simple et
très simple à dire et pas facile à faire, parce que moi j'ai pas encore réussi. J'ai fait deux tentatives assez infructueuses. Ça tenait bien pendant quelques secondes, ça avait l'air parfait, et une minute plus tard ça avait durci, enfin, etc.
Parce qu'il faut faire fondre le fromage avec l'eau de la cuisson, faire bien monter et mettre les pâtes chaudes dedans, voilà, et les pâtes égouttées à l'intérieur.
Vous faites des formations?
On peut faire des formations si vous voulez.
A carbonara, namo rega. Se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna qua. Ah, non c'avete fame, allora dai. Se magna, 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 se magna. Se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna, se beve, se magna qua.
Alors sinon, dans les plats jolis, alors, à la romana, saltimbocca à la romana.
Saltimbocca à la romana, c'est un plat fait avec du veau, avec un petit peu de jambon et de la sauge, qui est cuite à la poêle avec du vin blanc. Et c'est très simple, mais c'est tradition d'ici. Ça a toujours existé dans la cuisine romaine.
On connaît, nous, en France, les tripes à la mode de Caen, mais il y a aussi des tripes à la romana.
Les tripes à la romaine sont faites avec un petit peu de sauce tomate, très peu, et de la menthe. On rajoute de la menthe dans la cuisson, des feuilles de menthe. La cuisine romaine est une grande cuisine d'abats. Donc, si vous allez dans le quartier où il y a les anciens abattoirs, vous mangez dans des restaurants où vous ne mangez que des abats. Donc, c'est la coratella, la tripe, le cervello. Tout ce que vous trouvez à l'intérieur de la bête. Surtout de l'agneau de lait. Parce qu'en Italie, l'agneau se mange très jeune.
Et s'il existe une pizza napolitaine, il existe une pizza romaine.
Oh, il existe une façon de faire la pizza à Rome qui est une pâte très fine, contrairement à la napolitaine. Oui, il existe une pizza à la romaine, donc très très fine, très simple également. Sur la pizza, je ne suis pas très très préparée.
Non, mais c'est plutôt napolitain.
C'est plutôt napolitain, mais après il y a une histoire de pâte et d'épaisseur.
Les Italiennes en particulier, qui cuisinent beaucoup, vous expliquent qu'en réalité, la pizza, c'est l'accommodation des restes qu'on faisait en famille avec une pâte qu'on avait sous la main, et on faisait rapidement comme ça le soir avec les restes, et c'est devenu la pizza. C'est rien de plus, hein. Simplement, c'est la reine Marguerite à Naples qui a popularisé, et avec les couleurs du drapeau italien. C'est effectivement plutôt napolitain, mais je crois que c'est un plat absolument universel.
Alors, aujourd'hui, effectivement, mais normalement, elle est moins chère en Italie qu'en France, quand même, la pizza.
Je crois. Mais même la restauration en France est moins chère est moins chère qu'en France. Ouais. Beaucoup moins chère.
Qu'avons-nous oublié en ce moment? Il y a de la truffe. Alors, vous préparez de la truffe. Hein. On est mi-octobre, là, il y a de la truffe.
Il y a de la truffe blanche. Soit elle vient de la Calabria, soit elle vient du Piémont. Disons que la période est très brève. Elle est à partir de maintenant jusqu'à peu près au mois de janvier. Début janvier, voilà. Et on la cuisine avec des pâtes, bien sûr. Des pâtes fraîches, surtout. Des pâtes faites maison, avec la truffe blanche et un petit peu de beurre. Et du parmesan.
Oh, mamma, la 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 la. Oh, mamma, la.
suite de ce troisième Suivez le Guide à Rome, au restaurant La Carbonara, en terrasse avec Anna Luzietti.
Seguite la guida in Italia. Suive lo guide en Italie.
Rappelons qu'en Italie, si on fait un menu complet, on commence avec des antipasti, ça peut être les artichauts dont on a fait. Ensuite, le primi plati, ce sont les pâtes, qui ne sont pas dans des proportions énormes, parce que c'est une entrée, ce n'est pas le plat principal. Et ensuite, on passe au secondi, là, le plat principal. Et ensuite on prend du fromage ou pas de fromage? Non, le dessert.
Le dessert, exactement. Mais la vieille génération, disons, la génération avant nous, mange encore comme ça. Alors que la nouvelle génération, on a tendance à faire antipasti, primo, au secondo. Les trois, c'est trop difficile.
Si on doit travailler après, effectivement. Et alors, nous avons terminé avec Denis notre dégustation avec un dessert. Et Denis a pris une mousse au chocolat. Et moi, j'ai goûté un tiramisu. Alors pareil, le tiramisu, il est mondial. On trouve un tiramisu partout. Mais le tiramisu d'ici, de la Carbonara, est quand même une petite merveille.
Hein. Il est fait pratiquement tous les jours. Tous les jours, on le fait avec du mascarpone et avec de la crème fraîche, donc. Et que l'on monte avec des œufs, des jaunes d'œufs, et puis le café, les biscuits, et le classique.
Il y a de l'œuf, on le sent. Enfin, c'est pareil, vous n'êtes pas avare dans les ingrédients.
On n'est pas avare dans les ingrédients, ni dans la qualité des ingrédients. Surtout, la qualité des ingrédients, c'est très important. Les œufs frais et non pas lyophilisés, tout est frais. Ce qui est très important pour réaliser ce genre de plat.
Et puis en Italie, pour accompagner tout ça, il y a plein de bons vins. Hein.
Les vins, c'est beaucoup de vins de région, donc on part du nord au sud. C'est une histoire assez récente sur les vins d'Italie. Ce n'est pas aussi lointaine qu'en France. Mais on a de très très bons vins en Italie, du nord.
Dans la famille donc, de la Carbonara, la passion de la cuisine s'est vraiment transmise de génération en génération. Et vous êtes la marraine, alors aujourd'hui, la marraine des patrons actuels. Vous êtes venue renforcer l'équipe, mais il y a quelques années seulement. Hein.
Exactement, depuis 2014, je les aide, une dizaine d'années quand même. Je les aide bien pour justement ce changement de génération. Et bon, c'est très agréable, hein. C'est une activité très, très agréable.
Et pourtant, on se dit, alors la Carbonara, c'est un restaurant réputé à Rome, mais combien j'avais dit de restaurants à Rome, 12 000, 16 000, enfin je ne sais pas, le nombre de restaurants à Rome, c'est colossal. Hein.
Exactement, c'est colossal, c'est devenu la principale activité de Rome, pratiquement la restauration. Nous restons dans ceux qui sont le plus traditionnels et qui ont beaucoup d'histoire. On a vu pratiquement tous les présidents des républiques qui sont venus nous voir. Les rois d'Espagne, Monsieur Mitterrand est venu chez nous pendant plusieurs fois. Nous avons l'ambassade de France à côté, donc nous sommes très liés à la France.
C'est un peu une cantine de l'ambassade de France.
Exactement, on est une cantine de l'ambassade de France, de l'ambassade du Brésil également, parce qu'elle est à Piazza Navona, de l'ambassade de Hollande qui n'est pas loin d'ici aussi, donc on a beaucoup de chance.
Si les ambassadeurs veulent se rencontrer, ils savent qu'ils vont se retrouver à quelques mètres, si à la terrasse ou à l'intérieur du restaurant.
Exactement, soit en terrasse, soit au premier étage avec la vue sur la place.
Je voulais poser une question, vous qui vivez à Rome, depuis qu'on est là, depuis quelques jours, on nous parle de surtourisme. Et de fait, on est au mois d'octobre, il y a autant de groupes qu'au mois de mai ou en pleine saison. D'ailleurs, il n'y a plus de saison à Rome, c'est tout le temps. Bon. Comment on vit à Rome en ce moment?
Écoutez, on vit bien, même s'il y a beaucoup de touristes, même s'il y a beaucoup de travaux, parce que nous préparons encore 2025, qui est l'année du jubilé. On attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est vrai que, bon, pour se déplacer, c'est un peu plus difficile. Pour travailler, c'est un petit peu plus difficile. Mais on fait avec.
Les restaurateurs se frottent les mains ou...
Les restaurateurs se frottent les mains et on a toujours la beauté de la ville qui est un musée à ciel ouvert. Et on peut marcher des heures et des heures et voir plein de choses sans aller vraiment faire la queue dans les sites traditionnels.
Vous êtes, Anne, vraiment une amoureuse de Rome?
Exactement. Depuis 35 ans, je suis ici et j'ai la chance d'habiter dans le centre historique. De me déplacer beaucoup à pied, donc j'apprécie beaucoup la ville et le climat.
Même si vous croisez tous ces groupes avec porte-drapeau et...
Je fais avec, c'est bien, c'est comme ça, et on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Mais c'est vrai que nous n'avons plus de saison, c'est continu.
Est-ce qu'il y a une vie française à Rome? Est-ce que les Français de la communauté française se rencontrent, se voient
Alors je sais qu'il y a beaucoup d'associations pour les Français à Rome. Il y a des groupes de gens qui se rencontrent, des apéritifs qui sont faits, etc. Je n'ai jamais vraiment participé parce que bon, je me suis mariée avec un Italien et mes enfants ont grandi à l'italienne. Donc je vis plus l'Italie que la France. Je n'ai jamais eu nécessité d'aller voir des Français à Rome. Mais je sais qu'il y a une belle vie, une belle activité française à Rome. Ne serait-ce que par l'école également, Saint-Louis des Français, etc. C'est très important.
Les églises françaises de Rome, vous les connaissez? Oui.
Oh oui, Saint-Louis avec le Caravaggio dedans. Oui.
Mais êtes-vous allée, Anne, dans l'église de Denis?
Alors dans l'église de Denis, j'y suis allée même il n'y a pas très longtemps et c'est une très très belle église. Bravo Denis, vous avez une très belle église.
Saint-Nicolas des Lorrains. Et Anne, je pense que vous avez fait plaisir à Denis parce que vous n'avez pas dit que c'était une petite église. Denis, ça l'énerve toujours un petit peu quand vous dites « Oh, c'est une jolie petite église » et vous n'avez pas dit petite église.
Chapelle, on dit c'est une chapelle.
Alors chapelle, c'est pire. Hein.
Je crois que c'est une église très importante à Rome, l'église des Lorrains. Oui, et donc elle peut être petite, mais très importante quand même.
Et située comme ici, dans un lieu magique, en face de l'hôtel Raphaël, c'est une merveille absolue.
Exactement, c'est un des endroits les plus beaux de Rome. Oui.
Les générations, est-ce que la cuisine, c'est, on parlait de ces femmes qui ont cuisiné, etc. La cuisine, c'est plutôt transmise, par exemple, dans l'histoire de ces restaurants par les femmes?
Disons que les générations précédentes, oui, c'était les femmes. Maintenant, moins. Il y a plus de cuisiniers hommes que de cuisinières femmes. Dans les foyers, c'est surtout la femme qui transmet et qui transmettait la cuisine, la tradition de la cuisine.
On est en terrasse mi-octobre, on peut manger en terrasse quasi toute l'année?
Maintenant, quasi toute l'année. On a peut-être 10-15 jours au mois de février où on est un petit peu rafraîchi par le vent et par la fraîcheur de la température, mais toute l'année on peut manger dehors, exactement.
Si parmi nos amis, certains viennent à Rome et se disent tiens, allez, j'ai envie qu'on s'assoie sur cette terrasse de la Carbonara, mais on ne peut pas manger tous les plats évoqués. S'il ne fallait goûter qu'un seul plat ici à la Carbonara, quel serait-il? Qui est à la carte toute l'année?
Je serais de toute façon la friture, parce que c'est vraiment exceptionnel comme façon de frire, et bien sûr les pâtes à la Carbonara. On ne peut pas venir à la Carbonara sans goûter la Carbonara.
C'est l'examen de passage. Hein.
Exactement, l'examen de passage. Pour goûter plein d'autres plats aussi. Exactement, il y en a beaucoup, beaucoup à goûter. Et on fait de la cuisine très saisonnière.
C'est magnifique.
La vie est belle là.
Je ne sais pas combien vous avez d'enfants, Anne. Vous en avez plusieurs?
J'ai deux enfants, oui, deux garçons.
Deux garçons, et on a vu la photo de l'un d'entre eux. C'est un beau bébé. Hein. Denise disait qu'il vaut mieux être ami avec lui qu'en hostilité. Parce que votre fils est joueur de rugby.
Exactement, c'est un joueur professionnel. Il est national italien et donc un joueur international. Mais il joue avec les équipes de top 14 françaises. Donc là, il joue actuellement à Perpignan.
Quand vous le regardez, quand on voit la photo, vous pensez en lui quand il était tout petit?
Je pense à lui parce que c'est moi qui l'ai mis au rugby. Donc on me disait tout le monde me disait « mets-le au foot ». Non, j'ai dit « on met au rugby, le foot je n'aime pas ». Et puis voilà, et je ne pensais pas qu'il allait faire une carrière professionnelle.
C'est vous qui avez totalement orienté sa vie?
Exactement.
Jouez vous-même au rugby?
Non, pas du tout, mais je n'aimais pas du tout l'ambiance du foot.
On dit souvent que les rugbymen ont de la classe et les footballeurs, je ne sais plus, enfin il y a un dicton.
Là, je pense qu'il y a des valeurs, il y a une philosophie dans le rugby qui ont été perverties dans le foot.
C'est moins bling-bling et pognon quand même.
Ouais. Un jeu aussi sur lequel il y a des valeurs.
C'est un jeu avec beaucoup, beaucoup de valeurs et surtout une grande persévérance pour ceux qui aiment le faire et qui aiment jouer. Et qui a un sens du sacrifice qui est très important et qui sert pour toute la vie.
Le diffus sa carrière lui fait le menu complet, votre fils, quand il vient manger ici.
Exactement, quand il revient ici, il mange très bien, même peut-être deux fois, deux pâtes, peut-être. Oui, je pense qu'il se refait quand il vient ici, oui, c'est sûr.
Grazie mille, Anne.
Prego, merci à vous et au revoir.
Mamma, stasera non ritorno, ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo. Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto, spaghetti, vino e padre nostro. E la gioco, oh, oh, da ride, va bene ma lei sta a Parigi. I baci vietati, nelle stradine nere, occhi tristi ma felici.
quanti amici degli amici. E canti, ti sento tra le grida. Le luci ci passano le dita. Fa niente.
Voyager les yeux fermés, suivez le guide.
Ma con sta roba ci salta.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lasciateci ballare.
Après les artichauts, les pâtes et le tiramisu, digérons avec Denis Chamin dans l'église Saint-Claude et Saint-André des Francs-Comtois de Bourgogne, l'une des églises françaises de Rome, avec Agnès Chautsko, architecte dont la vie professionnelle est dédiée aux églises françaises romaines.
Seguite la guida a Roma. Suive lo guide a Roma.
Alors ce qui frappe quand on entre dans cette église ici donc de Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne, ce qui frappe, c'est pas tant les tableaux, ce qu'on devine derrière, ce qui frappe d'abord, ce sont les échafaudages partout. Hein.
Elle était totalement échafaudée jusqu'à il y a quelques mois, absolument.
Ici, ce sont plusieurs années de travaux. Là,
ah oui, ce sont déjà 3 années de travaux. Les travaux concernent tous les décors, donc la moindre petite surface de marbre, faux marbre, dorure, stuc, toile, fresque et peinture murale, tout a été vraiment restauré.
Donc là, c'est vraiment une restauration super production.
Complète, absolument.
On a du mal à imaginer, quand on enregistre mi-octobre, que, comme d'un claquement de doigts, pour Noël, tout cela aura disparu. Les paroissiens, visiteurs, pèlerins, enfin tout ce monde pourra entrer le 24 décembre ici.
Absolument, les restaurateurs connaissent très bien leur travail. Ils ont un chronoprogramme, un calendrier de travaux qui est très serré, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Les équipes sont même prêtes, je pense, à travailler davantage. Et puis, j'avoue que le démontage des échafaudages est quand même assez rapide. En réalité, c'est surtout aujourd'hui sur les parties basses des décors que le travail est à faire. Et puis ensuite, il y aura tout le sol.
Ça paraît logique. La restauration se fait du haut en bas.
Absolument.
Sinon, on se doute bien qu'on pourrait dégrader ce qui a été restauré.
Absolument.
Il y avait des parties délicates dans la restauration jusqu'à présent.
C'était surtout très sale, justement. On parlait de la pollution. C'était...
Donc la pollution est entrée dans l'église.
Oui, ça, on peut dire que la pollution peut-être est entrée dans l'église, mais c'est aussi
l'humain.
Les saletés quotidiennes qui se superposent. Mais il y a eu aussi, à la fin du 19e siècle, en fait, une grande redécoration de l'église. Des faux marbres ont été appliqués. Il faut savoir que quand elle a été construite, donc en 1731, par Antoine de Rizet, qui est cet architecte lyonnais, qui a su s'entourer des meilleurs artistes de l'époque, en fait, artistes français et italiens. Et c'est un petit peu d'ailleurs l'histoire qui continue, parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons donc un architecte français, un architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Antoine Gattier, qui a su s'entourer aussi des meilleurs artistes italiens.
Dans 3 siècles, quelqu'un dira, quand Agnès Chautsko, il y a 3 siècles, a supervisé la restauration de 2024
Je ne parlais pas de moi, mais je parlais surtout des restaurateurs italiens, qui sont excellents, les restaurateurs romains. Et c'est vrai que donc au départ, en 1729, l'église avait une décoration un petit peu minimaliste, où vous aviez en fait les 2 très grandes toiles sur les côtés, une grande toile qui se trouve au-dessus du maître-autel, et puis du vrai marbre sur les parties structurelles, et les fonds étaient plutôt clairs en fait, de tonalité claire. Et lorsque les pères polonais sont arrivés au milieu du 19e siècle, ce sont eux qui ont vraiment apporté une décoration beaucoup plus colorée. Et puis ensuite, avec au fil du temps, les vernis qui avaient été appliqués sur les faux marbres ont noirci, ont mal vieilli. Donc c'était en fait, quand on est arrivé ici il y a 3 ans, une église très très sombre.
Vous attaquez un chantier comme celui-ci, vous avez des archives, des restaurations antérieures. Comme ça, vous pouvez remonter jusqu'à quand ? Jusqu'au début ?
C'est difficile, évidemment, jusqu'au début, mais c'est vrai que, et c'est ce que je disais, avant de venir ici et de monter des échafaudages, il y a quand même des années d'études, de recherches et plusieurs campagnes aussi de diagnostic. Ça veut dire monter une portion d'échafaudage jusqu'à la coupole et aller faire des sondages stratigraphiques sur les faux marbres, sur les peintures murales, sur les dorures, sur les fonds, sur les toiles. C'est-à-dire qu'on va gratter gratter toutes les couches en fait historiques jusqu'à la couche d'origine. Et là, on arrive en fait à comprendre un petit peu la vie du patient. Ça.
Mais la dernière grande, s'il y a eu une grande restauration précédente avant celle qui se déroule là depuis 2-3 ans, et c'était quand?
C'était deuxième moitié du 19e siècle.
On est plus d'un siècle plus tard.
Oui, absolument.
Je me suis aperçu que les églises françaises étaient quand même bien documentées. En tout cas pour Saint-Nicolas, il y a des archives très anciennes.
Oui.
On peut quasiment remonter à la fondation de l'église. Ah. On sait quels travaux ont été effectués. On sait surtout ce qui a été volé ou éventuellement fait pendant les guerres révolutionnaires.
Hein. Oui. Et alors là, nous avons par exemple une anecdote assez curieuse justement, le pilastre que vous voyez ici.
Le pilastre est un pilier engagé dans un mur.
Était recouvert d'une couche très sombre de vernis et même de faux marbre. Donc avec le nettoyage, nous avons redécouvert cette plaque.
Ah oui, vous l'avez mise au jour là.
Cette plaque en marbre dont on avait vu quelque chose. On avait en fait eu des informations dans une publication, mais personne ne trouvait cette plaque en fait. Elle a été vraiment insérée dans la maçonnerie.
Ah oui, d'accord.
Et c'est une plaque qui a été, on peut se rapprocher si vous voulez.
Oui.
C'est une plaque qui a été installée au moment de la construction de l'église. Il y a la même d'ailleurs à Saint-Louis-des-Français, dans le cloître de Saint-Louis-des-Français. Il y a exactement la même et qui explique que tous ceux qui prieront pour le roi de France aura droit à une indulgence.
Du pape Innocent IV.
L'indulgence, c'est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine encourue. La plus célèbre fut celle accordée à quiconque aida à la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome.
C'est la joie du métier, ça.
Absolument. Et ça, les restaurateurs ont cette finesse et cette sensibilité, justement, de nettoyer les décors, mais avec une grande délicatesse, tout doucement. Et grâce à eux, on a trouvé aussi des signatures d'artistes qui sont vraiment inscrites dans les décors, et c'est vrai que c'est toujours très émouvant de faire ce genre de découverte.
Alors, je m'aperçois dans nos églises en Lorraine, au 19e siècle, on badigeonnait, hein. On y allait gaillardement, et donc on recouvrait des fresques souvent médiévales, etc. Aujourd'hui, j'ai plusieurs chantiers en Lorraine où on est en train de redécouvrir des fresques.
Comme l'église de Cellini, par exemple, la Sixtine de la Seille.
Exactement. Et le 19e siècle, enfin la période post-révolutionnaire, fait beaucoup de mal aux églises.
Alors, quand vous découvrez une plaque comme celle-ci, on est en Italie, on ne va pas dire champagne, mais c'est Prosecco, c'est Spritz, c'est quoi?
Non, c'est joie parmi tous ceux qui ont travaillé. C'est une belle aventure, en fait, qu'on est en train de vivre tous ensemble.
Et en quelle année avez-vous appris que 2025 serait une année jubilaire?
Alors, le rythme des années jubilaires s'est accéléré, parce que par le passé, c'était plutôt 50 ans, et puis c'est devenu 25, et puis je crois que le pape François, c'est 10, là. Hein.
Quand vous avez appris ça, vous êtes dit, mais c'est la tuile totale, ou c'est formidable d'avoir une nouvelle année jubilaire?
Très honnêtement, ce sont des accélérateurs. Parce que j'ai vu le patrimoine de Rome avant 2000 et après 2000.
Comme les JO.
Mutatis mutandis, les JO en France ont été des super accélérateurs pour un certain nombre de chantiers.
Au début, en fait, on ne se rend pas très bien compte de ce que ça veut dire, peut-être. En tout cas, moi, c'était le cas. On ne réalise pas, en fait, ce que ça veut dire. Et puis, petit à petit, on rentre dans le sujet. Et c'est justement quand on travaille sur ces programmations pluriannuelles que l'on commence à comprendre que le stress va monter et que la pression monte. Mais voilà, après, c'est grisant quand même de se dire qu'on travaille tous ensemble pour ce moment-là.
Aucune des 600 églises de Rome ne devra être en travaux pendant l'année jubilaire.
Alors non, pour ma part, j'ai interdiction de monter des échafaudages devant et à l'intérieur des églises. Donc pour ma part, je sais qu'il n'y aura pas d'échafaudage.
Et parce que là, il y a des travaux partout.
Il y a des travaux partout, toutes les fontaines sont échafaudées, les fontaines monumentales.
Ça risque d'être vraiment fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
D'émotion ici sur ce chantier, c'est que nous venons de recevoir l'autorisation. Nous avions eu l'autorisation de faire tous les travaux, sauf un détail qui consistait à réinstaller le retable qui avait été démonté à la fin du 19e siècle par les Pères du Saint-Sacrement, puisque vous savez que les Pères du Saint-Sacrement ont une tradition, évidemment l'adoration du Saint-Sacrement, l'adoration perpétuelle, et c'est la prière devant une décoration du maître-autel avec l'application d'un décor monumental tel une scénographie qui sert de socle au Saint-Sacrement. Les pères du Saint-Sacrement, pour pouvoir monter ce décor, ont démonté le retable, qui est une toile qui avait été installée par Antoine de Rizet, donc on retrouve notre architecte lyonnais, dès la construction de l'église, et cette toile donc avait été déposée par les pères du Saint-Sacrement à la fin du 19e siècle, pour qu'ils puissent justement monter leur décor propre à leur congrégation. Le projet de l'architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Antoine Gatier, prévoyait de remettre en place cette toile de Pietro Barberi et donc de déposer le décor des pères du Saint-Sacrement avec l'accord des pères du Saint-Sacrement.
On va revenir à la version d'avant.
Ils ne l'utilisent plus depuis le Concile Vatican II. Voilà. Mm-hmm. Et donc ils célèbrent la messe maintenant face au peuple et donc ils n'utilisent plus ce décor. Donc eux-mêmes insistaient pour que nous démontions ce décor. Mais la surintendance s'y opposait depuis des années. Et donc là, il y a eu une commission régionale des monuments historiques à Rome. Et la commission a accepté justement que ce décor soit démonté et que la toile de Pietro Barberi soit remontée, remise en place.
Mais elle va être heureuse. Elle va être heureuse de retrouver ça.
Elle va être heureuse. Et là, justement, pour revenir à la phase de sondage que nous avions faite il y a quelques années, nous avions démonté une portion des rayons dorés en bois de cette scénographie des Pères du Saint-Sacrement pour justement voir derrière quelle situation il y avait. Et en fait, nous avions vu que toute la corniche du tableau de Pietro Barberi était en place. C'était important pour nous aussi de pouvoir démontrer que la place du tableau était libre.
Ce tableau était tout à fait légitime pour être réinstallé.
Absolument.
Là.
Absolument.
Pensez au début, je vous ai demandé votre intérêt pour le patrimoine, oui, mais vous aviez aussi déjà un intérêt particulier pour les églises ?
Pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément, mais on le disait tout à l'heure, 600 églises à Rome, on est forcément.
Vous passez quand même votre vie dans les. Enfin, une partie
Absolument.
De votre vie dans les églises.
J'espère qu'un jour.
Vous êtes très en odeur de sainteté.
Oui, elle fait partie de toutes ces personnes qui auront un accès direct au paradis.
Je vous dirai.
J'avais une question, Agnès. Sur le mobilier, est-ce que vous avez une réflexion sur le mobilier des églises ? Parce que souvent, ce n'est pas beau, hein, ce sont des bancs, etc. Vous savez que pour Saint-Nicolas, on a eu toute une réflexion pour équiper cette petite église de quand même quelques dizaines de bancs. Ici, par exemple, est-ce qu'on va réutiliser les bancs qui étaient là ? Est-ce qu'on va créer un mobilier, comme on l'a fait à Notre-Dame, à Paris, par exemple ? Est-ce qu'on a une démarche de ce type-là ?
Pour maintenant, pour le jubilé, le même mobilier va être utilisé, mais c'est un souhait des affectataires de revoir tout le mobilier, non seulement les bancs, mais aussi l'autel, l'ambon.
Il y aura un travail là-dessus.
Il y aura une réflexion peut-être pendant le jubilé, justement.
On peut mettre aussi du mobilier contemporain.
Oui, aussi.
Il peut
aussi
se marier très bien avec de l'ancien. Hein. On le fait en France sur toutes nos églises. Hein. Enfin bon, là où c'est possible.
Des choses qui ont été faites, bien sûr. Oui. Là, ce serait aussi difficile, mais un joli défi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là aussi, la surintendance aurait son mot à dire.
Impressionnant, Agnès. Hein.
Magnifique.
Donc, vous avez beaucoup de chance. Hein.
Mais c'est vrai que voir en plus les travaux de près comme ça et de faire partie.
On est dans le décor. Hein.
Cette aventure, c'est toujours très impressionnant.
Merci beaucoup, Agnès Schotzko.
Merci à vous. Mambo Italiano, hey Mambo. Mambo
Italiano, go, go, go. C'est le 6 février 2025, lors d'une messe présidée par le cardinal Reina Baldassare, vicaire de Rome, en présence de deux évêques de Bourgogne-Franche-Comté, messeigneurs Benoît Rivière et Jean-Luc Garin, ainsi que la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, qui a été officiellement ouverte Saint-Claude et Saint-André des Francs-Comtois de Bourgogne. Fin de ce troisième suivi de guide à Rome, préparé et enregistré avec Denis Chamin, chancelier de l'Association des Amis de Saint-Nicolas des Lorrains et fil rouge de la série. Grazie mille Agnès Schotzko et Anne Lusietti. Grazie mille aussi Maria Cristina pour le don de ta voix.
Prego e con piacere.
Réalisation Roman Feocchio. Les sites internet lesamisdesaintnicolasdeslorrains@rome.fr et ristorantelacarbonara.it.
Grazie mille, arrivederci a Roma. Merci beaucoup et à bientôt à Rome.